Cela nous amène à la période des 40 dernières années. La bourgeoisie et l'État américain ont joué sur deux tableaux, l'intégration et la répression. Du côté de l'intégration, à la suite des luttes des années 50 et 60, des progrès importants ont eu lieu. En 1960, 20% des Noirs étaient inscrits sur les listes des électorales. En 72, ils étaient 62%. En 1930, 27 000 Noirs étaient inscrits dans les facultés. En 1970, ils étaient un demi-million. Une minorité a pu accéder pleinement aux études supérieures qui leur étaient auparavant fermées et par la suite aux professions libérales, juridiques, intellectuelles ou encore aux carrières politiques et dans l'appareil d'État. Une petite bourgeoisie noire s'est constituée. Des maires noirs, des représentants, des sénateurs noirs ont été élus et Obama est l'exemple le plus connu d'un certain nombre de réussites personnelles, présentées comme la preuve que le racisme ne compterait plus dans la politique américaine. Mais Obama fut élu en 2008, malgré un racisme persistant, et surtout parce que Bush et les Républicains s'étaient discrédités, en particulier avec la guerre en Irak. Et si les médias mettent vite en évidence quelques réussites individuelles, les Noirs sont largement sous-représentés dans les différentes couches de la bourgeoisie, la plus grande en particulier. Et même dans la petite bourgeoisie, ils sont moins nombreux et moins riches que les Blancs. L'intégration a cependant des limites, qui sont celles du capitalisme. Le prolétariat ne peut pas être intégré. Et l'immense majorité des 40 millions de Noirs appartiennent aux classes populaires, quand ils ne sont pas plongés dans le chômage chronique et la pauvreté qui va avec. En 1992, une révolte eut lieu à Los Angeles à la suite de l'acquittement par un jury blanc de policiers blancs qui avaient tabassé l'automobiliste noir Rodney King. Elle dura 6 jours et fit plus de 50 morts, montrant déjà que 20 ans après la révolte des années 60, le racisme et son potentiel explosif étaient toujours là. En 2005, quand l'ouragan Katrina dévasta des zones entières du Sud, des dizaines de milliers de Noirs pauvres de la Nouvelle-Orléans furent sinistrés et il y eut quelque 2000 morts. Et le gouvernement Bush expliquait que les gens auraient dû quitter la ville alors qu'ils n'avaient ni les moyens de le faire, ni un endroit où aller. L'État américain déployait des centaines de milliers d'hommes et des équipements ultra sophistiqués en Afghanistan et en Irak, mais n'avait rien prévu pour aider les pauvres au cœur de ses propres villes. Et puis, les choses se sont encore dégradées depuis 2008 et la crise économique. Toute la classe ouvrière a été frappée. La crise des prêts hypothécaires, les subprimes, s'est traduite par quelque 6 millions de saisies. Autant de familles ont été condamnées à vivre dans leur voiture, dans une caravane, dans un logement de fortune ou dans la rue. Les sociétés immobilières qui avaient placé ces prêts avait ciblé les plus pauvres, les Noirs en particulier. Ensuite, la crise s'est traduite par la destruction de millions d'emplois et une augmentation importante du chômage. Là aussi, toutes les catégories du monde du travail ont été touchées et les choses ont été encore plus graves pour les Noirs. Officiellement, leur chômage est le double de celui de l'ensemble de la population et il est bien plus élevé encore chez les jeunes. Une famille blanche gagne en moyenne 2 fois plus qu'une famille noire. Le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs, comme dans les années 60. Des millions de personnes ont vu leurs biens se déprécier, bien plus chez les Noirs que chez les Blancs. Aux États-Unis, avoir un peu de patrimoine n'est pas synonyme d'opulence. Cela peut s'avérer indispensable, par exemple, pour payer les études supérieures de ses enfants, ou encore acquitter les frais d'un traitement médical ou d'une opération. Bref, les Noirs ont vécu une dégradation de leur niveau de vie sans précédent depuis la crise des années 30. La crise s'est aussi traduite par des pertes pour les finances publiques de nombreuses villes et par des attaques massives contre l'éducation. La privatisation, les coupes dans les budgets, les fermetures d'écoles, les licenciements d'enseignants et de personnel scolaire. À la différence de la bourgeoisie, qui peut tout à fait profiter de la privatisation rampante du système d'éducation, les classes populaires n'ont pour seul choix que d'envoyer leurs enfants à l'école publique. Les écoles étant principalement organisées et financées à l'échelon local, les districts scolaires des quartiers aisés ont donc bien plus d'argent à consacrer à leurs élèves que ceux des quartiers plus pauvres. Et les Noirs habitent majoritairement des quartiers pauvres. Le pays dépense pour les enfants noirs pauvres des grandes agglomérations moins d'un tiers de ce qu'il dépense pour les enfants blancs des quartiers riches. Les écoles ne disposent pas des équipements dont disposent celles des quartiers riches. Les écoles des quartiers populaires payent moins bien leurs enseignants, qui sont souvent moins nombreux et se succèdent avec d'importantes périodes où il n'y a pas d'enseignants du tout. Sans compter les cas nombreux où des communes en difficulté ferment tout simplement les écoles, licencient les enseignants, parfois pour en réembaucher de nouveaux, sans formation ni ancienneté, et donc moins coûteux. Le résultat de ces inégalités, c'est que si 14% des adultes blancs sont illettrés en pratique, ils sont 38% chez les noirs. Comment pourrait-il en être autrement ? Un jeune noir sur 10 meurt avant d'avoir atteint ses 18 ans. Certains à la suite de maladies, faute d'un traitement satisfaisant, en raison de la pauvreté. D'autres sont tués par des racistes, d'autres par des policiers, et d'autres, les plus nombreux, par d'autres jeunes noirs. Un autre aspect de cette condition dramatique, des jeunes en particulier, c'est leur incarcération. Cela a été un choix politique, depuis Nixon et les années 70 jusqu'à Bush, en passant par Reagan et par Clinton. Il ne fallait plus que les jeunes noirs soient dans la rue. Faute de leur trouver un travail, les gouvernements successifs ont choisi de les mettre en prison. Nombre d'entre eux sont emprisonnés pour des délits mineurs. Un quart des prisonniers le sont pour des infractions non violentes liées à la drogue. Dans 4 cas sur 5, la consommation ou la possession, même pas du petit trafic. En 1980, il y avait 40 000 détenus pour des infractions liées aux stupéfiants. Il y en a aujourd'hui 500 000. Et ils sont noirs aux deux tiers. Dès les années 70, Nixon fit de la drogue l'ennemi public numéro un. Alors que les infractions étaient en baisse, Reagan déclara la guerre à la drogue, expliquant que c'était une menace pour la sécurité nationale. En même temps, la CIA inondait les ghettos noirs de crack en utilisant l'argent récolté pour financer une guérilla anticommuniste au Nicaragua. En 1986, le Congrès adopta la loi contre la toxicomanie, qui mettait en place des peines de prison plus dures pour le crack. Alors qu'auparavant, vendre 500 grammes de crack coûtait 5 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle, il suffisait désormais d'en vendre 5 grammes pour encourir cette peine. La loi mettait en place des peines planchées pour la marijuana. On prenait les politiques de tolérance zéro. Au cours des années 90, plusieurs États, à commencer par la Californie, adoptèrent des lois dites des trois coups, en référence à une règle du baseball. Ces dispositifs varient, mais reposent sur le principe qu'une deuxième récidive est passible de la prison à vie, sans libération conditionnelle pendant 25 ans. Cela conduisit souvent à des condamnations aussi absurdes que cruelles, comme celle de Curtis Wilkerson, qui, après avoir volé une paire de chaussettes d'une valeur de 2,5 $ en 1995, fut condamné à la prison à vie, dont 25 ans incompressibles, au motif qu'il avait été condamné deux fois pour vol en 81, quand il avait 19 ans. Ou Jerry Williams, condamné à 25 ans de prison après avoir volé une tranche de pizza. Un jeune homme noir se retrouve aujourd'hui plus souvent en prison qu'à la faculté. Les États-Unis emprisonnent une part plus grande de leur population qu'aucun autre pays au monde. Avec 2 300 000 prisonniers, le pays de la liberté bat des records. Avec 4,5% de l'humanité, il compte 23% de la population carcérale mondiale, pour ce que valent ces statistiques. En France, les prisons sont pleines, et bien les États-Unis emprisonnent en proportion 7 fois plus, et 45% des prisonniers sont noirs. En moyenne, un homme noir sur 3 fait, au moins une fois dans sa vie, un séjour en prison. L'incarcération est marquée par des abominations. Les peines de prison y sont très longues, bien plus que dans n'importe quel pays civilisé, y compris pour les très jeunes. Plus de 2 500 jeunes, âgés de 16 ans en moyenne, sont en prison à vie, sans possibilité de grâce. Ils ont été jetés, retirés de la société. Chaque jour, 50 000 prisonniers sont à l'isolement, nombre d'entre eux pour des années, c'est-à-dire torturés. Ils n'ont pas de contact avec les autres détenus, pas de visiteurs, pas de télé, ni de radio. Ils ne peuvent lire, sinon la Bible, et encore. Ils n'ont pas ou peu la possibilité d'écrire. Leur seul répit se résume à une heure quotidienne d'exercice en dehors de la cellule. Et puis il y a la peine de mort. 1400 prisonniers ont été exécutés depuis qu'elle a été réintroduite en 1977. Plus de 3000 condamnés sont toujours dans le couloir de la mort, des Noirs en majorité, parfois des innocents, victimes d'enquêtes ou de procès truqués. Pourquoi et comment tant de gens se retrouvent en prison ? Il y a les raisons politiques qu'on a évoquées, des raisons sociales. Cette sinistre inflation a commencé dans les années 70. Il y avait alors 5 fois moins de prisonniers, il y a 40 ans. Les classes populaires américaines ont été frappées de plein fouet par une série de récessions, avec à chaque fois une baisse de la production, des fermetures d'usines, des licenciements, et les Noirs ont toujours été les premières victimes de cette dégradation. L'évolution d'une ville comme Détroit, dans le Michigan, majoritairement noire, littéralement saignée de ses emplois industriels, est emblématique. Elle comptait 1,5 million d'habitants en 70, 700 000 aujourd'hui. Et pour ceux qui restent, combien n'ont pour seule perspective qu'une vie de petits boulots, de chômage et de petites délinquances ? Pour nombre de ces jeunes, auxquels la société n'offre aucune perspective, la prison est un passage fréquent, tant les motifs d'incarcération sont nombreux, voire dérisoires. Ces dernières années, certains États sont un peu revenus sur ces lois répressives. L'emprisonnement massif est non seulement révoltant, mais aussi un peu absurde, y compris du point de vue de la société bourgeoise. D'abord, il coûte cher, très cher, il a fallu construire des centaines de prisons. Et puis cela atteint ses limites et ne réduit en rien la criminalité. Ceux qui n'étaient que de tout petits délinquants quand ils sont entrés en prison sont souvent devenus des criminels endurcis quand ils en sortent. Bien au-delà des prisons, l'incarcération massive des petits délinquants a des conséquences sur toute la société. 2/3 des enfants noirs grandissent dans une famille monoparentale. Par ailleurs, les prisonniers ne peuvent voter. Et ceux qui ont été condamnés pour crime sont privés à vie de leurs droits civiques par de nombreux États. En tout, près de 6 millions d'Américains sont ainsi déchus du droit de vote. Un noir sur 13 n'a plus le droit de vote. En 1998, sous Clinton, le Congrès a voté l'interdiction pour ceux qui ont été condamnés pour une infraction liée à la drogue de bénéficier d'une bourse pour aller à l'université. Cela concerne des dizaines de milliers de jeunes, parfois pour la simple possession de marijuana, mais pas les violeurs ni les meurtriers. Toujours sous Clinton, le Congrès a voté leur expulsion des logements publics financés par l'État fédéral. Cela signifie que l'épouse et les enfants d'un ancien détenu risquent l'expulsion s'il vient habiter avec eux quand il est libéré. Plusieurs États ont également interdit aux condamnés de bénéficier de l'aide sociale, des bons alimentaires. Plusieurs États demandent aux anciens détenus de payer le coût de leur incarcération. Sur le marché du travail, il est fréquent que les formulaires de candidature à un emploi comportent une case « condamné pour crime » qui, quand elle est cochée, est rédhibitoire. Bref, pour avoir possédé, une fois dans sa vie, quelques grammes de crack, quelqu'un peut non seulement être condamné, mais à sa sortie de prison, être privé de toute possibilité de réinsertion et n'avoir d'autres perspectives, faute de pouvoir gagner sa vie, que de sombrer dans la délinquance, puis de retourner en prison. Alors, en conclusion, quelles sont aujourd'hui les perspectives des Noirs américains ? 60 ans après le boycott des bus de Montgomery, un grand nombre de Noirs vivent dans des quartiers principalement noirs. Si les formes les plus sinistres, les plus brutales de la ségrégation et des discriminations ont reculé au cours des années 60 et 70, c'est à la suite de l'immense révolte qui traversa alors la première puissance mondiale. Le mouvement noir s'est heurté à une dure répression, non seulement dans le Sud, mais dans tout le pays, où de nombreux militants ont été arrêtés, incarcérés, voire exécutés par l'État et par ses sbires. Aujourd'hui encore, 40 ans après, des militants payent de leur liberté d'avoir défié le pouvoir, comme le Black Panther Albert Woodfox, en prison à l'isolement depuis 43 ans, et dont la Louisiane vient de rejeter la libération. Ou Mumia Abu-Jamal, en prison depuis 1981, pour un meurtre dont il est innocent. Beaucoup ont payé de leur vie. Aujourd'hui, une partie des cadres du mouvement noir ont été liquidés, d'autres se sont démoralisés, d'autres encore se sont intégrés à la machine du Parti démocrate. Il existe toujours des associations pour les droits civiques, comme l'ancienne NAACP. Il existe aussi de nombreuses églises noires, ainsi que la nation de l'islam. Enfin, il existe une certaine conscience noire, au sens d'expérience partagée du racisme, des discriminations, de l'histoire aussi. C'est aussi ce qu'ont montré les mobilisations des derniers mois. Mais on ne peut plus parler d'un mouvement noir comparable aux années 50 et 60. Il avait représenté un exemple pour toute la classe ouvrière américaine et pour les opprimés du monde entier. C'était un vaste soulèvement contre l'oppression raciale, mais pas seulement. La toute-puissance américaine était ébranlée par cette révolte, pourtant largement spontanée, d'une fraction de sa population. Les Noirs étaient en quelque sorte le talon d'Achille du capitalisme américain. Leur soulèvement leur a permis de conquérir non seulement leur dignité, mais aussi les quelques droits démocratiques élémentaires que la bourgeoisie des pays riches est disposée à accorder plutôt que de risquer une révolution. À la violence du pouvoir d'État, les Noirs répondaient par leur propre violence. Et si la révolte des années 60 ne s'est pas transformée en révolution, c'est parce que les Noirs révoltés ne pouvaient, avec leur seule force, détruire le pouvoir blanc, celui de la bourgeoisie. Ils représentaient en revanche la fraction la plus combative, la plus consciente de la classe ouvrière. Et les travailleurs blancs restèrent largement en retrait par rapport à cette révolte. Ils ne la rejoignirent pas dans un combat commun contre le capitalisme. À défaut de parti communiste révolutionnaire, aucune force significative ne proposa cette politique qui ne pouvait être improvisée. Aujourd'hui, les 40 millions de Noirs représentent toujours une fraction significative de la classe ouvrière américaine. Comme le montrent les mobilisations qui ont suivi les meurtres racistes de Ferguson et de Baltimore, ils ont encore une conscience plus aiguë de l'oppression et de l'exploitation que le reste des travailleurs. Cela n'empêche ni les illusions, et elles furent nombreuses à propos d'Obama, ni la démoralisation, en particulier parmi ceux qui sont marginalisés par la société. Mais la conscience d'appartenir à la classe ouvrière, d'avoir des intérêts opposés, excusez-moi, à ceux de la bourgeoisie, est plus élevée parmi les Noirs que parmi les Blancs. Le contexte politique a bien changé. La classe ouvrière américaine doit faire face à des décennies de compromissions syndicales et de recul sur les plans de ses conditions de travail, de son organisation, de ses traditions de lutte aussi. Si une explosion de colère se produisait, les travailleurs noirs pourraient assurément y jouer un rôle moteur. Mais pour eux, comme pour les travailleurs blancs, regagner le terrain perdu, mettre un coup d'arrêt à la dégradation des conditions de vie, cela voudra dire trouver le chemin d'une lutte commune contre l'exploitation capitaliste et l'État qui l'incarne. Car s'attaquer au système capitaliste, cela reste la seule voie pour en finir définitivement avec l'oppression des Noirs américains comme de celle des travailleurs du monde entier en mettant fin à l'exploitation.